Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Depuis de nombreuses années maintenant à Grace Church, cela a été mon défi et ma joie de prêcher les messages de Noël. En fait, depuis quelques années, j'ai prêché 2 ou 3 messages de Noël et nous avons donc abordé de nombreuses façons différentes la naissance du Christ. Cette année, quel que soit l'objectif de Dieu en esprit et en cœur, j'ai ressenti fortement le besoin de prêcher sur ce que j'ai choisi d'appeler la laideur de Noël. Je n'ai pas l'intention d'être totalement négatif. Je n'ai pas l'intention de déprécier votre joie à cette époque de l'année, mais d'améliorer votre joie, de créer en vous une véritable joie, en comprenant une autre des merveilleuses facettes de la naissance du Sauveur. Je suppose que la chanson la plus célèbre de Noël est Noël blanc. Je rêve d'un Noël blanc. Mais si nous pouvons, je voudrais que nous parlions de la noirceur de Noël, de son autre facette. Je suppose que la plupart des gens, quand ils pensent à cette époque de l'année, ne pensent qu'à la beauté de celle-ci, et nous sommes cernés par cette beauté. De beaux arbres, avec des lumières chatoyantes et des décorations, des ornements colorés, de belles bougies, des couronnes, des scènes de neige, des feux crépitants dans les cheminées au cœur de la maison familiale, des présents magnifiquement emballés. Tout est lumière, légèreté, joie et bonheur. Je suppose que tout ce symbolisme est transmis à nous de manière significative dans les cartes de Noël que nous recevons, qui nous présentent un monde de fantaisie, de beauté, de merveille, de charme, et qui est un aspect de Noël, sans aucun doute. Mais il y a aussi un autre aspect. Il y a un côté très laid, et il y a beaucoup de façons dont nous pourrions aborder cela. Nous pourrions parler d'une nuit sombre et froide, dans un petit village de Palestine, où une jolie jeune femme donnait naissance à un bébé dans les conditions les plus insalubres et les plus misérables qu'on puisse imaginer, dans la saleté et le fumier d'une étable. Nous pourrions parler de la laideur d'un homme nommé Hérode, qui, parce qu'il craignait la perte de son contrôle et de son pouvoir, massacra tous les bébés de cette région. Noël a certains aspects laids. On pourrait parler d'une population indifférente à Jérusalem. Mais il y a quelque chose au-delà de tout ça. Il y a derrière chaque belle scène sur chaque carte de Noël, chaque sentiment charmant de Noël, quelque part derrière tout cela, il y a quelque chose de très vil et très laid, la réalité la plus misérable, la plus odieuse, la plus hideuse de tout l'univers. Et je crois vraiment que pour avoir une bonne compréhension de la beauté de Noël, vous devez avoir une bonne compréhension de la laideur de Noël. Laissez-moi voir si je peux vous aider à vous concentrer sur ce que je veux dire. Dans Matthieu 1, verset 21, nous lisons des mots très familiers. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 1 Jean 3, verset 5 dit « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. » 1 Jean 4, verset 14 « Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Et puis je veux que nous nous concentrions sur un texte très spécifique, 1 Timothée 1, verset 15, où Paul dit « C'est une parole certaine, une parole vraie, une parole digne de confiance et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, le côté sombre et laid de Noël et le péché. » Le péché, le cœur de Noël, c'est ça. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Christ s'est manifesté pour ôter le péché. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et la vraie beauté de Noël est de comprendre la laideur qu'il guérit. C'est mon souci aujourd'hui, de démontrer la puissance du péché, de démontrer la puissance du Christ vivant, mourant et ressuscitant pour faire face à ce qui entache toute la vie humaine. Le péché, le phénomène qui voue chaque âme à l'enfer, c'est le péché. C'est ce qui a perverti le monde entier. En raison du péché, il y a des larmes, de la douleur, des guerres, des bagarres, de l'anxiété, de la discorde, de l'agitation, de la peur, de l'inquiétude, des maladies, la mort, la famine, les tremblements de terre et la pollution. Toutes ces choses qui nuisent à notre existence sont le résultat direct du péché. Le péché perturbe et entrave toute relation humaine, que ce soit entre êtres humains, entre l'homme et la création, ou entre l'homme et Dieu. Thomas Watson, le grand écrivain puritain, a dit « Le péché a transformé la beauté en difformité, et le méchant prend plus soin d'avoir son péché couvert que guéri. Les hommes sont beaucoup plus enclins à excuser leur péché que de l'examiner. Il est donc nécessaire qu'à cette époque de l'année, où les hommes couvrent leur péché avec toute la beauté de Noël, d'arracher cette couverture même pour un bref moment, afin de révéler la laideur qui est derrière tout cela. Vous voyez pourquoi le Christ est né, pour être le Sauveur venu délivrer les hommes du péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de Noël. Donc nous ne pouvons pas dissocier les deux, et nous ne pouvons pas nous cacher derrière la fantaisie. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière le rideau de fumée des cartes de Noël et de tout le reste. Le péché doit venir au premier plan. C'est ce qui génère le chaos cosmique. C'est ce à quoi personne n'échappe. Et tous ceux qui meurent en couche, ou de maladies cardiaques, ou de cancer, ou de guerre, ou de meurtre, ou d'accident, ou de vieillesse, ou quoi que ce soit, tous meurent à cause du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne sur le globe mourra, et sera donc affectée par le péché. Mais la Bible dit que Jésus est venu dans le monde pour nous sauver du péché. C'est la raison de sa venue. Le péché est la laideur de Noël. C'est le pouvoir dégénératif dans le flux humain qui rend l'homme sensible aux maladies, aux catastrophes, aux maladies, à la mort et à l'enfer. C'est aussi la raison d'être de Noël. Chaque mariage brisé, chaque maison déchirée, chaque amitié détruite, chaque dispute, chaque désaccord, toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole, toute mauvaise action, toute bonne action mal faite, une bonne intention maladroite, un gentil mot non dit peuvent être attribués au péché, et c'est pourquoi dans Josué 7 au verset 13, on parle de choses maudites. Il est comparé dans l'Écriture au venin des serpents, et à la puanteur d'une tombe. Et tout ce qui est si sinistre, et si puissant, et tellement invalidant pour toute la race humaine, doit être traité si Dieu, qui est infiniment saint, va pouvoir ramener l'homme à lui. Ainsi Christ est venu dans le monde pour faire face au péché. Vous ne pouvez donc pas regarder Noël et le célébrer avec tous ses accessoires. Vous devez comprendre qu'au cœur de celui-ci est la laideur du péché. Il y a de nombreuses années, Thomas Guthrie écrivait du péché quelques mots provocateurs. Qui est le tentateur grimé qui vole notre vertu? Qui est le meurtrier qui détruit notre vie? Qui est le sorcier qui trompe d'abord et puis dame nos âmes? Le péché. Qui, avec son souffle glacé, brouille les fleurs blanches de la jeunesse? Qui attriste le cœur des parents? Qui amène les vieillards aux cheveux gris avec tristesse à la tombe? Le péché. Qui, par une métamorphose plus hideuse que les pensées d'Ovide, transforme les enfants doux en serpents, les tendres mères en monstres, et leurs pères en pire qu'Hérode, assassins de leur propre innocence? Le péché. Qui lance la pomme de la discorde sur le cœur des ménages? Qui allume le flambeau de la guerre et l'enflamme sur les terres tremblantes? Qui, par division dans l'Église, déchire la robe transparente du Christ? Le péché. Qui est cette Dalila qui endort le Nazaréen par ses chants et qui livre la force de Dieu entre les mains des incirconcis? Qui gagne des sourires sur son visage, flatte de miel sur sa langue, se tient dans la porte pour offrir les droits sacrés de l'hospitalité, et quand le soupçon vient, perfore traîtreusement nos tempes avec un clou? Quelle belle sirène est celle qui, assise sur un rocher près d'un bassin mortel, sourit pour tromper, chante pour attirer, embrasse pour trahir, et jette son bras autour de notre cou pour plonger avec nous dans la perdition. Le péché, qui transforme les cœurs doux et aimants en pierre, qui se prévaut de la raison depuis son auguste trône et pousse les pécheurs, insensés comme un porc gadarénien, au fond du précipice dans un lac de feu. Le péché est la laideur de Noël. Il est derrière la scène, et c'est la raison pour laquelle le Sauveur est venu. C'est une véritable déclaration, digne de toute acceptation, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est tout l'enjeu. Maintenant, je veux que nous considérions cinq questions concernant le péché. Premièrement, Qu'est-ce que le péché? De quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qui a tellement marqué le monde? John Bunyan dit prosaïquement, « Le péché, c'est défier Dieu. Le péché est le mépris de la miséricorde de Dieu. C'est la raillerie de sa patience, le minimalisme de son pouvoir et le mépris de son amour. » Mais lu concrètement, qu'est-ce que le péché en termes simples? Je crois que la définition de 1 Jean 3, verset 4, nous le dit de façon très claire. « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est enfreindre la loi de Dieu. C'est toute violation de la loi de Dieu. Dans la version grecque de ce verset, le péché est traduit par le mot anarchie. L'anarchie équivaut au péché. C'est vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu, et pas de loi, pas d'autorité, pas de normes, tout comme les gens vivent aujourd'hui, et ont toujours voulu vivre. Ils nient la réalité de la loi de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas maître, et ne peut pas mettre sur eux de règles contraignantes. C'est vivre au-delà des limites que Dieu a fixées. Ce sont des pensées qui sont inacceptables pour Dieu, des paroles qui sont inacceptables pour Dieu, un comportement qui est inacceptable pour Dieu, la violation de sa loi. Et Dieu a dicté sa loi. Il a inscrite sa loi dans nos cœurs. La Bible dit dans Romains 2, il a écrit sa loi sur les pages de l'Écriture sainte. Et la loi, selon Romains 7 au verset 12, est décrite de cette façon. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Il n'y a rien d'impur, rien d'injuste, et aucune erreur. Tout cela est saint, juste et bon. Et il n'y a aucune raison saine de violer la loi de Dieu autre que le fait que les hommes désirent diriger leur propre vie, faire ce qu'ils veulent, et qu'ils nient à Dieu sa place légitime. Toute la loi de Dieu est pour la bénédiction de l'homme. Toute la loi de Dieu est pour le bien de l'homme. Toute la loi de Dieu est pour le bonheur de l'homme, le salut de l'homme, la joie éternelle de l'homme. Mais l'homme est un fou, et tandis que, comme un cheval qui a de beaux pâturages pour brouter, il saute la clôture seulement pour atterrir dans la boue. L'homme a déifié la beauté de ce que Dieu a fourni dans le cadre de l'obéissance à sa loi. Il a sauté la clôture, dépassé les limites, et a atterri profondément dans le bourbier et la saleté de son propre péché, et il ne peut pas s'en sortir. Ainsi, même si nous pouvons regarder à travers les Écritures et trouver beaucoup de différentes sortes de péchés et de nombreux termes différents pour exprimer ce que c'est, la définition la plus simple est que c'est une violation de la loi de Dieu. Cela nous amène à une deuxième question. Quelle forme prend le péché? Quelle est la nature du péché? Quelles sont les spécificités du péché? Quelles sont les caractéristiques de ce qui a fait naître le Christ comme un sauveur? Tout d'abord, le péché est une souillure. Nous devons comprendre que sa nature est d'être une souillure. Ce n'est pas seulement un rejet. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une rébellion. Ce n'est pas seulement une transgression de la loi de Dieu ou un dépassement des limites, mais c'est une pollution, c'est une souillure, c'est au métal précieux ce qu'est la rouille, c'est ce qu'est un nuage de pollution à un ciel azur, c'est une chose impudique. Il teinte l'âme avec le rouge de la culpabilité et le noir de la méchanceté. Dans 1 Roi 8, verset 38, le péché du cœur de l'homme est comparé à une plaie mortelle. Dans Zacharie 3, verset 3, il est comparé à des vêtements sales. C'est une chose impure, polluante, qui tâche. Il tâche l'âme et efface l'image de Dieu. Selon Zacharie 11, verset 8, cela fait que Dieu haïsse le pécheur. Et selon Ézéchiel 20, verset 43, quand le pécheur voit son propre péché, il se déteste lui-même. Le péché pollue, souille, tâche, et détruit tout ce qu'il touche, et touche tout ce qui touche à l'humain. Dans 1 Corinthiens 7, verset 1, Paul l'appelle la saleté de la chair et de l'esprit. Thomas Goodwin, le puritain, a écrit « Le péché est appelé poison, les pécheurs des serpents. Le péché est appelé le vomi, les pécheurs des chiens. Le péché est appelé la puanteur des tombes, les pécheurs des sépulcres pourris. Le péché est appelé la boue, les pécheurs des cochons. » Et tout cela, ces termes bibliques parlent de sa pollution, de sa souillure, de sa laideur. Ainsi, le péché est une souillure. Deuxièmement, le péché est aussi une provocation. Il est provocateur de par sa nature. Dans Lévitique 26 au verset 27, Dieu parle de ceux qui choisissent de marcher, en opposition avec lui. C'est défier Dieu. C'est celui qui serre le poing pour frapper un coup dans le visage de Jésus-Christ, quel que soit l'hommage que vous voudrez peut-être lui rendre à Noël. Le péché frappe un coup dans son visage. Le péché plante un clou dans ses mains. Le péché écrase la couronne d'épines sur sa tête. Le péché enfonce une lance dans son côté. Le péché crache sur lui. Le péché se moque de lui. Le péché dit, « Je ferai ce que je veux. Je ne me soucie pas de ce que tu réclames ou de qui tu es. » Dans le psaume 12, verset 4, il est dit, « Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Nous dirons exactement ce que nous voulons dire. C'est ce qu'implique ce passage. Nous ne t'acceptons pas en tant qu'autorité. Nous ne croyons pas que nous sommes liés à toi. Nous dirons ce que nous voulons. Dans Jérémie, quand il accusait le peuple d'Israël pour leur méfait envers Dieu, il cite le peuple au chapitre 2, verset 31. « Nous sommes des seigneurs. Nous ne voulons plus retourner à toi. » Et c'est la déclaration de tout pécheur. Nous sommes nos propres chefs. Nous ne voulons plus venir vers toi. Nous ne sommes pas intéressés par ta souveraineté ni par tes lois. Nous gouvernons. Nous nous chargeons de notre propre vie. Et le véritable sens du mot « pécha » en hébreu, le mot traduit par le mot « péché », signifie la rébellion. C'est le cœur rebelle qui est en chaque pécheur. Jérémie 44, verset 17 dit « Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche ». En d'autres termes, c'est la caractéristique du pécheur qu'il fasse exactement ce qu'il désire faire. Vous voyez, le péché serait l'assassin de Dieu. Le péché ne détrônerait pas seulement Dieu. Il lui enlèverait ses attributs divins. Si le pécheur réussissait son coup, il n'y aurait pas de Dieu, et le pécheur deviendrait Dieu. C'est l'orgueil du péché. Peu importe le type d'hommage qu'il tente de rendre à Dieu, le pécheur frappe la face de Dieu. Il crache sur le Sauveur. Il défie Dieu et exige de faire sa propre volonté. Ainsi le péché est souillure, et le péché est orgueil. Troisièmement, le péché est ingratitude. Le péché est ingratitude. Vous voyez, selon les Actes 17 au verset 28, la Bible dit, « En lui, c'est-à-dire en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous le savez bien sûr que sans Dieu, vous ne seriez pas là. Vous avez été créé par Dieu. » Vous vivez et respirez parce que Dieu vous a fait, comme il a fait le monde entier. Et quoi que vous possédiez dans ce monde, quoi que vous appréciez, et tout ce que vous possédez, vous l'avez à cause de Dieu, et parce qu'il est un Dieu miséricordieux, et providentiellement aimable et gracieux. Il a créé un monde magnifique pour nous, et il nous a bénis de sa faveur, et nous respirons encore parce qu'il y a un Dieu, et qu'il nous donne ce souffle. Dans Matthieu 5, au verset 45, il dit de Dieu, « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Autrement dit, il a béni le monde de l'homme pécheur, avec sa bonté et sa faveur. C'est Dieu qui a fourni toute la nourriture que le pécheur mange, chaque délicatesse, chaque goût que vous appréciez, les plus beaux paysages que vous regardez, tous les bons sentiments que vous avez ressentis. Dieu vous a donné tout ça. C'est Dieu qui a accordé toute la beauté. C'est Dieu qui a donné la sagesse à notre esprit, la coordination à notre corps, pour nous permettre de penser et de sentir, de travailler, de jouer et de se reposer, qui a permis de faire que la vie soit pleine et utile. C'est Dieu qui a fait l'amour, c'est Dieu qui a fait le rire, c'est Dieu, bien sûr, qui nous donne les joies de la vie. Petits enfants, amis, c'est Dieu qui donne à chaque homme une compétence spéciale. À chaque femme, une capacité spéciale qui fait de lui ou d'elle ce qu'ils sont et personne d'autre, afin qu'ils exercent de façon très spéciale et connaissent donc l'estime d'eux-mêmes et de leur propre valeur. C'est Dieu qui a fait l'homme de telle manière qu'il soit capable de prendre soin de lui-même et des siens, afin que la vie soit remplie de toutes ces bonnes choses que nous aimons tous. C'est Dieu qui nous préserve d'attraper toutes les maladies et de mourir de toutes les morts. Dieu entoure littéralement le pécheur ingrat de ses soins providentiels. Et quand nous persévérons dans le péché, nous défions cette bonté et nous exprimons notre ingratitude. Et comme Absalom, qui, dès que David son père l'eut embrassé et serré contre son cœur, sortit vivement et complota sa trahison contre son père bien-aimé. De la même façon, le pécheur prendrait volontiers dans ses bras tout le bien que Dieu donne et frapperait Dieu au visage en retour. Et nous nous posons la même question que celle posée dans 2 Samuel 16 au verset 17. Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Le péché est une telle ingratitude. Il cherche à détrôner et à détruire celui qui nous a donné tout ce dont nous avons. Incroyable! C'est la nature du péché. vous ne songeriez pas à rendre le mal à quelqu'un qui a sauvé votre vie dans un acte grand et héroïque, et pourtant vous jetez votre défi dans le visage de Dieu qui vous a donné tout ce que vous avez. Le péché est souillure, et le péché est orgueil, et le péché est ingratitude. Le péché est aussi incurable, humainement parlant. Humainement parlant, le péché est humainement incurable. Dans Jérémie 13, au verset 23, le prophète nous dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ?» La réponse à cette question rhétorique est non. L'Éthiopien ne peut pas changer sa peau, et le léopard, ni par volonté ni par action, ne peut changer ses taches. Puis le prophète ajoute « De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal ? Comme l'Éthiopien ne peut changer la couleur de sa peau, et le léopard ne peut changer la couleur de ses taches, vous ne pouvez pas faire le bien, vous qui êtes prédestiné à faire le mal. Il n'y a rien, humainement parlant, qui puisse changer cela, pas même toute la volonté du monde, pas même avec tous vos efforts, avec votre religiosité. Le péché est humainement incurable. » Dans Ésaïe 1, nous lisons au verset 4. « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. » Notez cela. « Chargé d'iniquité. » Des graines de méchanceté, en d'autres termes. À la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies ouvertes. C'est ainsi que Dieu décrit le pécheur, en tant que malade. Le péché est la lèpre incurable de l'âme. Il ne peut pas être supprimé légalement. Il ne peut pas être chassé philosophiquement. Il ne peut pas être effacé psychologiquement. On ne peut pas le chasser par simple volonté. Il ne peut pas être ôté par nos propres efforts. John Flavel a dit une fois que toutes les larmes d'un pécheur pénitent, même s'il versait autant de larmes qu'il y a eu de gouttes de pluie depuis la création du monde, ne pourrait pas laver un seul péché. Et puis il poursuit en disant « Le feu éternel de l'enfer ne purifie pas la conscience flamboyante d'un péché, parce que la douleur ne peut pas guérir le péché de qui que ce soit, et le châtiment ne peut pas guérir le péché de qui que ce soit. Seul Christ peut guérir le péché. » Et donc voilà ce qu'est Noël. C'est Jésus-Christ venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre remède. Le péché est une maladie guérissable par une seule chose, et c'est le sang du divin médecin lui-même. En outre, pour comprendre ce qu'est le péché, nous devons ajouter que le péché est détesté par Dieu. C'est détestable pour Dieu. Cela doit être évident pour nous. Mais permettez-moi de poursuivre la réflexion un peu plus loin. Le péché est la seule chose contre laquelle Dieu a un antagonisme éternel. Il ne condamne personne, sauf le pécheur, c'est tout. C'est la chose très précise pour laquelle Dieu a une haine éternelle. Dieu ne réprouve pas un homme parce qu'il est faible. Dieu ne réprouve pas une personne parce qu'elle est ignorante, ou paralysée, ou malade, ou méprisée par le monde, ou limitée en capacité, ou parce qu'elle semble avoir peu à offrir. Non, il n'y a qu'une seule chose qui aliénerait une personne aux yeux de Dieu, et c'est le péché. C'est tout. Dieu est antagoniste seulement envers le pécheur. Dans Jérémie 44, verset 4, Dieu dit « Ne faites pas ces abominations que je hais. C'est la parole de Dieu aux pécheurs rétifs, rebelles, défiants et profanes. Vous voyez, notre Dieu est saint, totalement saint, seulement saint, uniquement saint et toujours saint. Et le pécheur est pécheur, totalement pécheur, seulement pécheur, uniquement pécheur et toujours pécheur. » Et comment les deux peuvent être réunis? Seulement quand le péché est éliminé. Et c'est par l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu pour sauver les pécheurs. Ainsi, le péché est souillure et provocation et ingratitude. Il est humainement incurable. Il est haï par Dieu. Et écoutez bien, le péché, si je peux ajouter ceci, est un dur travail. C'est son caractère. Avez-vous remarqué? Tout ce qui en résulte est la douleur. Et pourtant, les gens passent par cette douleur pour commettre le péché. C'est une contrainte étrange que nous impose notre nature. Dans Jérémie 9, au verset 5, la Bible dit « Il se fatigue en faisant le mal ». Dans le psaume 7, au verset 14, « Voici le méchant prépare douloureusement le mal. décrivant Couche, l'ennemi de David, qui chassait David. Il est dans la douleur, essayant d'engendrer le mal. Et il est dit de Jérusalem dans Ézéchiel 24, au verset 12. Elle s'est épuisée avec le péché. Le péché est un travail acharné, et les gens le cherchent avec ardeur. Je me souviens de la Genèse, chapitre 19, où ces homosexuels pervers et tordus dans la ville de Sodome sont venus à la maison de Lot parce que deux belles créatures angéliques étaient venues chez lui de la part de Dieu, et ils virent ces magnifiques créatures, et ils voulaient venir les molester de façon vile, perverse. Ils voulaient qu'ils sortent de la maison pour qu'ils puissent leur faire cela. Bien sûr, Lot n'aurait pas permis que cela se produise. La Bible dit que le jugement divin de Dieu a frappé ces homosexuels pervers, et ils sont devenus aveugles. Et vous savez ce qui brise ma compréhension? Quand ils ont été aveugles, ils ne sont pas tombés sur le sol, et n'ont pas rampé à terre. Ils n'ont pas couru, ni imploré pour leur clémence. Ils ont essayé de défoncer la porte avec plus d'intensité, et d'entrer dans la maison par tous les moyens possibles. En fait, foncer aveuglément sur place n'était pas assez pour dominer les incroyables pulsions de leur convoitise. Ils ont ignoré leur aveuglement et ont déployé des efforts extrêmes pour atteindre le but vers lequel leur convoitise les a poussés. C'est l'essence du péché. Il est si pervers que, ignorant la douleur et les conséquences, les hommes courent après le mal et s'épuisent dans le processus. Les gens vont entrer en enfer par leurs propres efforts. Qu'est-ce que le péché? C'est la souillure. C'est la provocation, c'est l'ingratitude, c'est incurable, c'est haï par Dieu, et c'est un dur travail. Tout cela pour que les hommes violent la loi de Dieu. Que c'est démoralisant! Combien de personnes le péché affecte-t-il? C'est notre troisième question. J'ai reçu des lettres ces dernières années de personnes qui m'ont dit « Je ne sais pas ce qui vous tracasse tant, je n'ai jamais péché. Combien de personnes le péché affecte-t-il? » La réponse est dans Romains 3, « Car tous ont péché. » Et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est pour vous qui pensez que vous êtes le seul juste. Non, pas un. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Et par Adam est venue toute une civilisation de pécheurs. Nous en sommes les descendants. Job nous dit dans Job 14 au verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Personne. Psaume 51, verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Depuis Adam, il n'y a eu que des pécheurs, des pécheurs, des pécheurs, et rien que des pécheurs. Et le seul non-pécheur était Jésus-Christ. Il n'y a point en lui de péché, dit 1 Jean 3, verset 5. Et non seulement la culpabilité du péché d'Adam nous a été transmise, mais aussi la dépravation, la corruption et la pollution de celui-ci. Nous nous abreuvons au même puits empoisonné. Nous héritons la même génétique déchue. Le péché d'Adam s'accroche à nous comme la lèpre de Naaman s'accroche à Gehazi dans 2 Rois 5. Par la chair, Paul dit dans Romains 7 au verset 25, « Je suis par la chair, esclave de la loi du péché. » Le péché originel d'Adam a contaminé toute l'humanité. Si vous avez une question à ce sujet, il est très simple de répondre. Le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous mourrez, vous mourrez à cause du péché. C'est simple et clair. Si vous regardez votre vie et que vous voulez savoir si vous êtes un pécheur, demandez-vous si vous avez déjà été malade, si vous vieillissez, si vous mourrez. La réponse est oui, et le péché en est la cause. Vous ne pouvez pas le nier. Et les racines du péché sont si profondes, elles sont si profondes que même après le salut, le péché reste un problème pour le chrétien. Paul crie, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et en même temps, quand il a été pardonné, et même quand le Seigneur a mis la justice de Christ sur ce péché, parce que Christ a payé la peine pour ce péché, il est toujours là. Les racines du péché sont si profondes. Nous en sommes tous affectés, nous tous. Même quand nous sommes chrétiens, le péché est toujours une réalité. Et si vous dites que vous n'avez pas de péché, qu'est-ce que cela fait de Dieu? Un menteur. Question vitale. Quels sont les résultats du péché? Quels en sont les résultats? Qu'engendre le péché? Permettez-moi de partager cela avec vous. Premièrement, le péché fait que le mal nous dompte. Le péché transforme les gens en victimes du mal. Le mal domine l'esprit. Il est dit dans Jérémie 17 au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Il est dit dans Éphésiens 4 que l'esprit est obscur, que l'esprit est aliéné, que la vie de Dieu est absente. Il est dit dans 1 Corinthiens 2 que nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Dans Romains 1, que l'esprit est réprouvé. En d'autres termes, le péché a dominé l'esprit de sorte que notre processus de pensée est dominé par le mal. Nous pensons par le biais du mal. Nous planifions par le biais du mal. Nous concevons par le biais du mal. Et puis nous savons que le mal domine aussi la volonté. Je l'ai mentionné plus tôt, en citant Jérémie 44 au verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. La volonté est aussi dominée par le mal qui domine le pécheur. C'est une victime totale. Et si sa pensée est dominée par le mal, ainsi sera son vouloir, car il voudra faire ce qu'il conçoit, et ce qu'il conçoit est dominé par le mal. Ensuite, le mal domine les affections. Les hommes aiment les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs actes sont mauvais. Leurs amours, leurs intérêts, leurs souhaits, leurs vœux, leurs désirs, leurs aspirations sont attirés par ce qui n'est pas juste, et ainsi l'homme est dominé par le mal. Comme Paul dit, le péché qui habite en moi, il est comme le noir qui s'attache à la nuit, et le péché est dans la nature même du chrétien. C'est l'essence du chrétien, c'est en la personne du chrétien, comme un lion endormi, et la moindre chose peut l'irriter. C'est une chose dominante. Il couve comme un feu parfois fort, parfois faible. Le moindre vent de la tentation le transforme en tempête. Deuxièmement, concernant cette question de péché et ce qui en découle. Le péché nous place sous la domination de Satan. Les gens pensent qu'ils sont libres, vous voyez. Ils se croient libres, vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Nous appelons ça être des esprits libres. Écoutez, la seule personne libre, vraiment libre, est celle qui a eu son péché absous et qui est libre de faire ce qui est juste. Un pécheur n'est pas libre. Il est sous la domination totale du péché et sous le contrôle de Satan. Dans l'Écriture, dans Éphésiens 2, verset 2, l'apôtre Paul dit que le pécheur marche au rythme de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit agissant dans les fils de la rébellion. Satan est au travail. Il est maître de la situation. Il porte la marque de Satan. Il porte sur leur visage l'image de leur père. Et Jésus nous dit ceci, dans Jean 8 au verset 44, « Vous avez pour père le diable. » C'était évident. Ils étaient visiblement les enfants du diable, parce qu'ils se comportaient de cette façon. Ils arboraient la marque du contrôle de Satan sur leur vie. L'homme est l'esclave de Satan. Il n'est pas libre. Il est totalement contrôlé. Satan opère en lui pour accomplir sa propre volonté. « Seulement, dit Jésus, si le Fils vous rend libre, alors vous êtes vraiment libre. Donc, ce qui découle du péché, c'est qu'il nous domine et donne le contrôle sur nous à Satan. » Troisièmement, le péché fait de chacun un objet de colère pour Dieu. C'est le péché qui est la cause de notre condamnation et de notre chute. C'est le péché qui envoie les hommes en enfer. Nous sommes exposés. Éphésiens 2, verset 3 parle de la colère de Dieu. Et le psalmiste nous dit dans le psaume 90 au verset 11 « Qui prend garde à la force de ta colère ?» C'est pourquoi nous ne voulons pas minimiser cette colère. C'est pourquoi je crois que Proverbe 14 au verset 9 le résume bien en disant que seuls les imbéciles se moquent du péché. Parce que lorsque vous vous moquez du péché, vous vous moquez de la colère de Dieu. La colère de Dieu n'est pas un sentiment futile momentané. C'est une sainte haine. C'est une expression de sa pure et sainte volonté contre ce qui est mal et inacceptable et qu'il détruira. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains d'un Dieu en colère, d'un Dieu puissant, d'un Dieu condamnant, courroucé et vengeur. Le péché rend donc les hommes héritiers de la colère de Dieu. Et tandis qu'ils pensent qu'ils se régalent comme au banquet de Damoclès, il y a une épée suspendue au-dessus de leur tête tenue par un fil, et un jour le fil se brisera et le jugement tombera. Abordons une autre pensée sur les conséquences du péché qui est très importante. Le péché soumet une personne à toutes les misères de la vie. Le péché fait ressortir le pire de tout ce qu'il y a en chacun. Job dit au chapitre 5 et au verset 7 « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. La souffrance est partout. » Paul dit que le péché d'Adam a soumis la créature à la vanité, soumis l'homme à la vacuité, à l'inutilité. Il lui manque quelque chose. Il porte une insatisfaction. C'est donc là le problème. et c'est là le néant. Vous vivez une vie de péché, et vous récoltez des ennuis et rien d'autre, que de la vacuité. Salomon nous dit, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Quel dilemme, quel paradoxe. Un homme entre dans le monde avec un cri et le quitte avec un gémissement. Et il n'y a rien entre les deux, seulement le vide. Le péché a jeté à bas l'homme de sa place d'honneur. Il a perdu sa dignité. Il est privé de la paix. Il ne connaît ni joie durable, ni espoir, ni sens, ni valeur. Il n'y a pas de paix, dit Dieu, pour les méchants. Les méchants sont plutôt comme de la mer agitée dont les eaux jettent la boue et la saleté. Et le méchant, nous dit Proverbe 28 au verset 1, prend la fuite sans qu'on le poursuive. Ils sont harcelés par le néant et le manque de sens, et la culpabilité en l'absence de paix dans leur vie. Judas s'y effrayait, Judas s'y rongeait de culpabilité et d'horreur, se pendit pour calmer sa conscience criante, et même l'enfer ne leur fournit pas de repos. Écoutez, le péché apporte les pires choses dans la vie. Il expose les hommes à toute la misère ultime. Le résultat final du péché est qu'il condamne les gens à l'enfer. Dans Apocalypse, au chapitre 20, il est dit à la fin, lors du grand jugement du trône blanc, que le Seigneur rassemblera tous les incrédules et les jettera dans le lac de feu qui brûle à jamais. Jésus a enseigné ce qui se passe en enfer. C'est lui qui l'a formulé et qui l'a exprimé dans les évangiles. Les apôtres l'ont repris et répété dans tout le Nouveau Testament. Et nous devons le savoir, chers amis, que les 4,225,000,000 de personnes vivant sur la terre aujourd'hui, tous vont mourir et tous seront confrontés à l'enfer s'ils meurent sans le Christ. 50 millions de personnes vont mourir cette année. 136,986 meurent chaque jour. Depuis que j'ai commencé à parler, plus de 5,000 personnes sont mortes. 95 meurent chaque minute. Et ils sont remplacés sur cette terre 2,5 fois selon le taux de natalité. Ce qui signifie que plus mourront dans l'avenir qu'ils n'en meurent maintenant. Et l'enfer attend la grande majorité des gens. Spurgeon a dit, « L'homme est suspendu au-dessus de la bouche de l'enfer par une planche solitaire, et la planche est pourrie. Et c'est la fatalité du péché, finalement. Quelle horrible chose! Pourquoi tout cela? Parce que cela, chers amis, c'est la laideur de Noël, qui nous amène jusqu'au point de sa beauté. Vous voyez, la beauté de Noël est que le Christ est venu dans le monde pour quoi? Sauver les pécheurs. Maintenant, n'est-ce pas la laideur de Noël? Et qui peut comprendre la beauté de Noël sans sa laideur? Ce ne sont pas les cartes, les lumières, les cadeaux, les féeries, les scènes de neige et les feux dans l'âtre. La beauté de Noël réside dans ce que le Christ est venu pour guérir la laideur du monde. Et Ezekiel Hopkins, il y a de nombreuses années, a dit « Ce n'est pas que l'homme ne peut pas, mais sa volonté n'est pas. Ce n'est pas son impuissance, mais son obstination qui le détruit. Les hommes ne veulent pas, obstinément pas, venir au Christ qui est venu pour les sauver. Dieu a décidé d'envoyer son Fils dans le monde, l'éclat de sa gloire, l'image expresse de sa personne, participant de la perfection divine pour mourir pour nous. C'est ça Noël, c'est le sens de Noël. Peu importe ce que vous pensez et quels sentiments vous pouvez avoir et quels sentiments chaleureux vous pouvez cultiver au sujet de Noël, à moins que vous ne compreniez la laideur de votre propre péché. Et n'accueillez Christ qui seul, par sa mort et sa résurrection, peut vous sauver de ce péché. Vous n'avez aucun lien avec Noël. » Joseph Hart a écrit « Venez pécheurs, pauvres et nécessiteux, faibles et blessés, malades et endoloris. Jésus se tient prêt à vous sauver, plein de pitié, d'amour et de force. Il est capable. Il en est capable. Il le veut. Ne doutez plus. Il est capable. Il est capable. Il est partant. Ne doutez plus. Venez, vous qui êtes fatigués et lourdement chargés, meurtris et mutilés par la chute. Si vous vous attardez jusqu'à ce que vous alliez mieux, vous ne viendrez alors jamais. Ce ne sont pas les justes, mais les pécheurs que Jésus est venu appeler. Pas les justes, mais les pécheurs que Jésus est venu appeler. » Prions. En effet, ô Seigneur, nous savons que c'est la vérité. C'est une parole digne de confiance et digne de toute acceptation que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Oui, c'est la beauté de Noël. C'est la gloire de Noël. Le merveilleux. La beauté n'est pas dans un arbre, ni une décoration, ni des lumières, ni des paysages. La beauté est dans ce que la laideur peut être guérie par la venue du Sauveur. Pendant que votre tête est courbée, juste pour un instant, si vous ne connaissez pas Christ, si vous ne lui avez pas donné votre vie et ne l'avez pas reçu comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez le faire maintenant dans votre cœur. Demandez-lui de venir purifier votre péché, de vous laver, et il le fera en vertu de sa promesse. Vous pouvez être déjà chrétien, et vous voyez dans votre propre vie un péché particulier, et vous avez vu à nouveau aujourd'hui ce qu'est le péché, et peut-être que vous voulez que le Seigneur vous purifie à nouveau, vous en lave. Il vient une fois pour sauver, mais chaque jour, il nous purifie.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.